VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît dans son rapport du mois de mai que la situation en matière de sécurité dans le Sahel a continué à se détériorer avec maintenant des retombées sur les pays voisins non membres du G5, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le rapport onusien note que les attaques se multiplient, les prises d'otages deviennent plus fréquentes et les zones d'insécurité ne cessent de grandir. Les groupes djihadistes sont omniprésents au Sahel, où leur stratégie porte ses fruits malgré l'action des forces militaires africaines et occidentales. Les groupes armés terroristes comprendraient environ 1 000 à 1400 personnes au Mali. Il serait plusieurs centaines au Burkina Faso pour un total d'environ 2 000 sur l'ensemble du Sahel. Grève générale des agents de la santé au Burkina Faso, une grève de 4 jours déclenchée par le SENSHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, pour obliger le gouvernement à satisfaire ses revendications. Dans la capitale burkinabé, plusieurs centres de santé sont fermés depuis hier et d'autres tournent au ralenti. Constat dans ce reportage de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Issa Napon.
Tôt ce matin, comme d'habitude, les patients se sont pressés au centre de santé et de promotion sociale du quartier Wemtenga pour des soins. Ils ont trouvé que l'entrée était fermée. Je suis arrivé ici à 8 heures avec mon bébé que je suis venu soigner. Le docteur n'est pas là, tout est fermé. Je ne sais comment faire puisqu'on dit que partout c'est la même chose. Dans ce centre de santé, tout est effectivement fermé, y compris le dépôt pharmaceutique. Un témoin présent dans un bureau adjacent d'état civil raconte.
Je suis arrivé à 7h30 ici et j'ai constaté que les malades viennent et puis ils repartent. Parce que les agents ont respecté leur grève, ils ne travaillent pas. Les malades sont en train de repartir, puisque les stagiaires les rejettent, ils disent qu'ils ne travaillent pas. Sans les titulaires, les stagiaires ne peuvent rien faire.
La grève va durer 4 jours selon les syndicats qui revendiquent ce qu'ils appellent la fonction publique hospitalière qui devrait les rassurer de meilleures rémunérations. Au centre de santé du quartier de Dasasco, la porte est ouverte, mais les services sont aux arrêts. L'infirmière Marie-Madeleine Ilboudo en est le chef.
Depuis le matin, au niveau de la maternité, on a eu des femmes. Au niveau du dispensaire, on a eu des malades. Au niveau de la SMI, c'est des jours destinés à la pesée, à la vaccination. Pour ceux qu'on peut donner un rendez-vous, on donne. Pour celles où on ne peut pas donner de rendez-vous, on essaie de les diriger à un centre confessionnel à côté. Voilà, à 500 mètres, donc, pour qu'au moins ceux ou celles qui sont dans l'urgence puissent trouver satisfaction.
Une situation mal accueillie par les usagers de ce CSPS.
Nous, la population, on suggère que le président n'a qu'à voir, au moins au niveau de la santé et au niveau de l'enseignement, là, pour qu'il n'y ait plus de grève. Ce matin, il y a des gens qui viennent, ils ne savent même pas qu'il y a la grève. Bon, en cas d'urgence, là, si ces personnes-là, s'ils n'ont pas de moyens, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs malades?
Une femme enceinte est arrivée ici pour les services de maternité et elle a trouvé porte close. Elle a décidé de rebrousser chemin à la maison. Si quelque chose arrive au bébé, que va-t-on dire? Ce n'est pas normal. Si ça continue comme ça, nous allons encore ressortir dans la rue.
Voilà, avant de mettre dans le gym, là.
Avec l'arrêt complet sans service minimum disponible au niveau de nombre de centres de santé publics, les conséquences pourraient être dramatiques pour les populations si aucune solution n'est trouvée avant la fin de la grève dans 4 jours. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
République démocratique du Congo maintenant, 2 ans et 3 mois après sa mort à Bruxelles, la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi sera rapatriée à Kinshasa le 30 mai prochain. Ses obsèques seront ensuite organisées dans le plus grand stade de football de la capitale de la République démocratique du Congo en présence de quelques chefs d'État africains. Son inhumation est prévue le samedi 1er juin. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Conservé dans un funérarium à Bruxelles depuis plus de 2 ans suite à un désaccord entre sa famille biologique, son parti, l'UDPS et le gouvernement Kabila au sujet de l'organisation de ses obsèques, la dépouille mortelle de l'opposant Étienne Tshisekedi wa Mulumba sera finalement ramenée à Kinshasa le jeudi 30 mai prochain. Des obsèques sont ensuite prévues le lendemain au stade des Martyrs de la Pentecôte, le plus grand du pays, avant que celui qui aura été pendant 37 ans opposant à Mobutu puis à Kabila père et fils ne soit placé le 1er juin courant dans un mausolée érigé en sa mémoire dans la commune de Lancélé, dans la banlieue de Kinshasa. Quelques chefs d'État africains sont d'ailleurs annoncés dans la capitale de la RDC pour rendre un dernier hommage à l'historique opposant décédé à Bruxelles à l'âge de 85 ans, deux ans avant que son fils, Félix Tshisekedi, ne soit élu président de la République. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et notez que le président Félix Tshisekedi a nommé hier son oncle, Monseigneur Gérard Moulumba, au poste de chef de la maison civile du chef de l'État et reconduit le général Célestin Bala au poste de chef d'état-major général des forces armées de la RDC, poste qu'il occupait déjà sous son prédécesseur Joseph Kabila. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé mardi soir le limogeage de son vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou ainsi que celui du ministre des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapangu. La présidence gabonaise n'a donné aucun détail sur les raisons de ce limogeage, mais les appels à la démission de M. Mapangu s'étaient multipliés ces derniers jours dans la presse et la société civile gabonaise dans le sillage du Kivazingo Gate, une affaire de trafic de bois précieux interdit d'exploitation. Les combats ont gagné en intensité hier au sud de la capitale libyenne au moment où l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassem Salamé, mettait en garde devant le Conseil de sécurité contre le début d'une guerre longue et sanglante. Plus de 6 semaines après le début de leur assaut sur Tripoli, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye et son autoproclamé armée nationale libyenne, ANL, font toujours face à la résistance des forces du gouvernement d'Union nationale, GNA, reconnu par la communauté internationale et basé dans la capitale. Cette bataille pourrait conduire à la division permanente de la Libye, a averti du moins Hassem Salamé.
Nos infos sur voaafrique.com.
Ici à Washington, les parlementaires américains ont exprimé des vues très divergentes sur la menace posée par l'Iran après les briefings à huis clos faits hier par l'équipe de sécurité nationale du président Donald Trump à tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Les précisions, Anne Alberson.
La tension n'a cessé de monter entre Washington et Téhéran avec l'envoi dans la région d'un porte-avions américain et de bombardiers B-52 depuis que l'Iran a été accusé de préparer des attaques imminentes contre les forces et intérêts américains. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'une escalade sans précédent, a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham, un faucon, après le briefing du secrétaire à la défense par intérim, Pat Shanahan, du secrétaire d'État Mike Pompeo et du chef d'état-major interarmes, le général Joseph Dunford. Les démocrates ne le voient pas ainsi et ont même exprimé des doutes sur la sagesse de la politique de pression maximale de l'administration Trump contre l'Iran. Mais M. Shanahan soutient que le déploiement américain a servi de moyen de dissuasion face à la menace contre les forces et intérêts américains.
Au moins 12 civils ont été tués mercredi dans des frappes aériennes contre le dernier bastion djihadiste en Syrie, dans le nord-ouest du pays, alors que les combats intenses se poursuivent entre djihadistes et forces pro-régime. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les 12 civils sont morts dans des raids menés dans la nuit contre la ville de Maret al-Nouman. L'ONG dénombre aussi 18 blessés. L'attaque visait un marché de la région, d'après l'Observatoire, qui n'a pas été en mesure dans l'immédiat de préciser si les frappes avaient été menées par l'aviation russe ou l'aviation syrienne. En Indonésie, au moins 6 personnes ont été tuées et 200 autres blessées lors de heurts à Jakarta après l'annonce de la réélection du président sortant, Joko Widodo, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la capitale indonésienne, tandis que la police a annoncé avoir procédé à une vingtaine d'arrestations. Le candidat de l'opposition Prabowo Subianto a dit mardi qu'il rejetait le résultat du scrutin du 17 avril après la proclamation de la victoire de Joko Widodo par la commission électorale. Et puis aux Philippines, les alliés de Rodrigo Duterte ont pris le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat, offrant au président philippin la dernière institution qui résistait encore à sa politique controversé selon les résultats officiels annoncés aujourd'hui. Le président qui conserve la majorité des 297 sièges de la Chambre basse contrôle désormais 15 des 24 sièges du Sénat contre 4 pour ses opposants. Ces résultats donnent donc au chef de l'État les coudées franches pour mettre en œuvre ses projets de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.